Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Les experts de l'IMO réunis le vendredi pour répondre à vos questions, à vos sujets. Aujourd'hui, on s'adresse aux Français qui vivent à l'étranger et qui investissent. Nous sommes bien entourés, Marie. Nous sommes avec Geoffroy Reiser, cofondateur de Terreta en Spain, et puis Guillaume Erard, journaliste au Figaro. Marie.
Oui, c'est moi.
Comme promis, avant la petite page de pub, on s'était dit qu'on allait quand même reparler un tout petit peu de la fiscalité parce qu'on avait une super question d'auditeur, un certain Mike qui nous a écrit et qui nous demande, alors je vous lis la question parce que j'ai pas envie de faire une grosse bêtise. Lorsque nous nous installons à l'étranger, nos investissements immobiliers sont-ils dépendants des règles locales en termes de succession ? Exemple, nous dit Mike, j'ai la double nationalité franco-portugaise. Si je m'installe définitivement au Portugal, mes investissements immobiliers portugais et français vont dépendre de quelle réglementation au niveau successoral ? Merci.
Merci d'inviter un fiscaliste la prochaine fois, le vendredi.
Exactement. Dans le cadre d'une succession, il y a deux choses. Il y a d'abord la loi et ensuite la fiscalité. Côté loi, depuis 2015, dans l'Union européenne, on peut choisir de quelle loi on veut dépendre. En l'occurrence, s'il a le double passeport France-Portugal,
Il peut choisir décider... le plus avantageux des deux.
Voilà, exactement. En termes de loi, pas de fiscalité. Par contre, en termes de fiscalité, ce qui s'impose, c'est le pays du bien. Donc, pour les biens portugais, ça va être la fiscalité portugaise. Et ensuite, malheureusement, il n'y a pas de convention fiscale de non-double imposition entre la France et le Portugal sur cette chose-là. Donc, ça fera quand même partie de l'héritage global et de la fiscalité globale française ses enfants sont résidents fiscaux
en France. Ouais.
Autre chose, peut-être, par rapport à un cas précis comme celui-ci, le meilleur conseil à donner, ça serait, si c'est possible, qu'à la fois lui et ses enfants soient résidents fiscaux portugais, donc que personne ne soit français à ce moment-là, parce que la France est malheureusement championne d'Europe en termes de matraquage fiscal lors de la succession.
Ouais.
Donc là, pour le coup, on regardait juste pour donner un exemple. Hein, sur un patrimoine de 1 million d'euros en succession directe avec un seul enfant, donc de parents à enfants, en France, on est à peu près sur 210 000 euros de taxation globale, alors que dans des pays comme l'Italie ou le Portugal, on est à zéro. Donc les écarts sont énormes. En Grèce, on est à 50 000. En Allemagne ou en Espagne, on est à 100 000.
Mais là, ce que vous nous dites, je crois, c'est globalement, Mike, il ne pourra pas échapper.
Alors, il pourra.
Si ses enfants, au moment de la succession, sont résidents fiscaux français, ils ne pourront pas échapper aux règles d'imposition sur les successions françaises.
Non, exactement. Et ses enfants, pour aller un petit peu plus loin, les biens portugais, parce que je crois qu'il y avait des biens portugais et des biens français, les biens portugais, si jamais ils sont vendus, seront aussi soumis à une imposition au Portugal de 25% sur la plus-value.
D'accord. Ah oui, donc bon, bah voilà Mike, hein, j'espère que vous avez la réponse et que ça peut peut-être réorienter vos investissements ou pas. On parlait du coup fiscalité, réglementation. Il y avait aussi, après, ça me permettra de rebondir sur nos spécificités françaises avec Guillaume, c'est que on peut quand même pas aller à l'aveugle à l'étranger parce qu'à vous écouter, on a énormément d'atouts, c'est la fiscalité plus allégée, etc. Mais enfin, il y a quand même des choses auxquelles on n'a pas l'habitude nous en France. Il faut se faire accompagner. Est-ce qu'il y a des petites spécificités, des choses à avoir en tête avant de se lancer dans un investissement à l'étranger, même quand c'est en Europe et tout près de chez nous?
Il y en a des très très fortes.
Soyons peut-être très spécifiques par pays pour que notre parole soit
spécifique. On va être spécifique par pays, mais déjà d'abord dire que la France c'est le pays le plus protecteur de l'acheteur dans le cadre d'un achat immobilier. Et notamment, en France, on a cette fameuse période de rétractation qui n'existe pas ailleurs en Europe. On a aussi, de manière quasiment systématique, la clause de non-obtention du prêt.
Ça n'existe pas, ça ?
Alors, ça existe théoriquement, et elle peut être mise dans les clauses de l'offre d'achat, mais il y a aussi de nombreux pays et régions où elle est refusée systématiquement par les vendeurs. Mmh. Je prends encore un seul exemple, mais qui illustre ça. En Espagne, 60% des ventes immobilières se font sans avoir recours au crédit. Ça veut dire que si vous faites une offre que du cash ou en tout cas pas de crédit hypothécaire, ça signifie que si moi en tant qu'acheteur je fais une offre pour un bien même au prix mais que je mets une clause de non-obtention du financement, le vendeur dira bah non, merci, ça ne m'intéresse pas.
Et comment ça se fait si qu'il y ait autant d'achats cash et les gens ont vraiment encore une fois c'est des secondes accidents ou alors ils épargnent beaucoup plus que nous, ils ont un apport plus élevé.
En fait, c'est lié à l'histoire entre guillemets européenne des 15 dernières années. D'accord. Et de la crise de 2008. En fait, avec la crise de 2008, on a des pays qui ont été plus impactés ou beaucoup plus impactés.
Ah bah France. L'Espagne, ça a été terrible. Ouais.
Exactement. Espagne, Grèce. Mais on revient sur le quatuor de tout à l'heure.
Ouais. Espagne, donc, rappelez-le Grèce, pour Italie, ceux qui nous rejoignent à la radio LAT.
On a Espagne, Italie, Grèce et Chypre qui sont les quatre seuls pays dans lesquels les prix sont au niveau de 2008 ou inférieurs à 2008. Et en fait, ces quatre pays correspondent exactement aux pays dans lesquels on achète majoritairement sans avoir recours au financement.
Mais je rejoins la question de Guillaume. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, c'est parce que ces prix sont encore accessibles, parce que justement, il n'y a pas eu de rattrapage qu'on peut payer sans crédit. C'est parce qu'on a une défiance, c'est parce que le crédit est différent de chez nous. C'est quoi l'idée?
Mais parce que aussi les gens ont de l'argent aussi, peut-être simplement.
Oui, alors après, le PIB par habitant est quand même pas le même que chez nous en Espagne.
Mais l'immobilier est moins élevé.
C'est pour ça, c'est d'où la question. Est-ce que c'est le prix de l'immobilier qui permet?
C'est lié à un comportement effectivement, on va acheter plus tard. On en parlait tout à l'heure. Ouais. L'âge moyen d'accès à la propriété en Espagne, c'est 41 ans. En France, c'est 32 ans. Donc, on achète. On est locataire beaucoup
32
plus longtemps.
Ans. Ouais, pardon.
Et le taux de propriétaire, du coup, par rapport à la France? Parce que France, c'est un peu moins de 60%. Ouais. Et du coup, en Espagne...
France, je crois que c'est 58%.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et Espagne, on est plutôt à 75%.
Ouais, c'est ça.
C'est un pays de propriétaires.
Tous les pays latins à peu près.
Il y aurait plus de propriétaires en France si on n'inculquait pas aux jeunes qu'il faut s'endetter pour acheter de l'immobilier, si on leur disait de mettre leur argent ailleurs que sur un emprunt immobilier dès 31 ans.
D'autant que c'est très intéressant ce qu'il dit par rapport aux achats cash, c'est qu'on voit cette tendance en France, alors évidemment pas du tout sur le même profil, on va rester sur des secondo-accédants, c'est-à-dire personnes qui sont déjà propriétaires, donc eux qui n'ont pas besoin de prendre un crédit. Et il y en a pas mal, surtout ceux qui sont pressés, qui acceptent des prix moins élevés, mais parce que c'est un achat cash. Et qu'il y a une telle tension sur les taux de crédit qu'au moins, on est sûr qu'avec un cash, il n'y a pas de problème.
Mais du coup, Guillaume, je t'interroge là-dessus, mais tu ne crois pas qu'à la fin aussi, ça va quand même aussi complètement modifier la typologie de nos acheteurs immobiliers en France? Tout le monde, comme tu le disais si bien, n'a pas les moyens d'acheter cash.
Là, clairement, il y avait déjà un marché à deux vitesses entre les primos et les secondos. Là, l'écart, il est en train de se grandir. Aujourd'hui, clairement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le marché, il est drivé par les secondo-accédants. Et c'est pas sain. Un marché immobilier sain, c'est un marché qui est drivé par les primo-accédants. Si aujourd'hui on a énormément de secondo-accédants, ça montre vraiment un vrai problème d'accession à la propriété. On reparle du crédit, on reparle des prix qui sont trop élevés et qui, à mon sens, cette tendance doit se poursuivre pour permettre justement. Alors après, encore une fois, il ne faut pas obliger tout le monde à accéder à la propriété.
Bien sûr, c'est pas une obligation.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'encore une fois, on l'a vu quand les taux étaient à 1%, parfois il y avait des prêts qui étaient accordés à des gens. Bon, on n'est pas aux États-Unis, mais encore une fois, il faut faire, je pense, laisser les banques, encore une fois, gérer au cas par cas et voir en fonction du profil des gens s'ils sont solvables ou pas.
Mais alors justement, ce que dit Guillaume est hyper intéressant parce que ça me renvoie sur un sujet qu'on devait aborder en première partie, on ne l'a pas fait, mais justement sur le crédit IMO. Aujourd'hui, comment ça se passe quand je veux acheter à l'étranger? Il faut que je prenne un crédit où? Comment ça se passe en fait?
Alors, il y a deux grandes possibilités. La première possibilité, je vais prendre un résident fiscal français qui est déjà propriétaire de sa résidence principale ou qui a des assets sur le territoire français, PER, PEA, etc., qui peut placer en nantissement auprès d'une banque française. Le plus grand classique, c'est la résidence principale nette de dette. Si jamais on a ça, là, c'est avenue royale. On peut tout simplement mettre une garantie déplacée, faire un crédit avec une banque française et acheter où on veut dans le monde, faire ce qu'on veut de son argent. Parce qu'en fait, comme la banque a sur le sol français cette garantie,
c'est ça, ils ont...
voilà, elle peut se retourner vers ça. Souvent, une banque va uniquement prendre en valeur 50 à 70% de la valeur de ce bien-là.
D'accord.
Pour prendre une marge au cas où.
Donc, pour les personnes qui ont un bon patrimoine, ça va le faire.
C'est la meilleure option. C'est vraiment l'option.
Et pour ceux qui n'en ont pas.
Sinon, on achète en réalisant un crédit dans le pays du bien. Et là, il faut savoir que les pays dont on parle depuis tout à l'heure, notamment Espagne et Portugal, qui sont quand même les champions d'Europe sur ce sujet, sont des pays dans lesquels il y a à peu près 20% d'acheteurs étrangers. Si on parle des régions comme la région de Valence ou d'Alicante, c'est plutôt 40% d'acheteurs étrangers. Donc en fait, les banques sont habituées à prêter à des Français. C'est très classique.
Mais donc, ce sont des acheteurs étrangers qui s'endettent dans le territoire que vous évoquez pour faire leur achat de manière locale.
Oui, exactement.
Et on fait quoi? C'est des crédits à 100, 110% comme chez nous?
Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Encore une fois, on ne prête qu'aux riches. C'est particulièrement vrai quand on achète à l'étranger. Parce que concrètement, une banque va vous financer uniquement 70% en général du prix du bien, ce qui veut dire que je finance 30% plus les frais de notaire, d'agent immobilier, etc. Donc en fait, sur l'opération, on est sur du 60-40 ou 50-50. Donc c'est pas du tout ce à quoi on est habitué en France.
C'est deux fois plus qu'en France, généralement, on demande un apport de 20%. Quoi.
Non, c'est pour ça que le motif ou la raison de l'achat à l'étranger, elle va être davantage sur le fait de pouvoir acheter dans un pays où les prix sont plus bas, où les rentabilités sont plus hautes, et à la limite, avec une logique de pied-à-terre, de digital nomade, ou de choses comme ça.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas une logique aussi de réglementation, par exemple, sur le marché locatif, ce qui nous emmène, allons sur notre sujet, favori des passoires thermiques. Bon, on en est où à l'étranger? Parce que nous, c'est un peu notre dada. Guillaume, j'imagine que dans le Figaro, à peu près toutes les... J'allais dire tous les jours, bon, peut-être pas, mais toutes les semaines... J'imagine que tu
tapes aussi un sujet passoire. Oui, et puis il y a une étude très intéressante de Se Loger, meilleur agent là-dessus, qui montre encore une fois que le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, est devenu un critère. Mais maintenant, c'est carrément primordial, indispensable, regardé par tous. Quand on pense qu'il y a encore quelques temps, on ne savait même pas ce que
fichait,
c'était. On s'en fichait,
évidemment.
On ne regardait pas, il y avait une telle demande. Là, clairement, aujourd'hui, c'est devenu un critère majeur. Et on voit aujourd'hui que la décote entre une passoire thermique, donc un bien qui est classé F ou G sur votre diagnostic de performance énergétique, la décote peut grimper jusqu'à 15% en moyenne par rapport à un bien classé D.
Et ça, Guillaume, c'est à cause de l'accélération du calendrier, parce que en gros, ces décotes-là, à mesure qu'on s'approche des interdictions DG, on le rappelle à nos auditeurs, téléspectateurs, j'ai pas le petit... mais 1er janvier 2025, c'est terminé pour les G, 1er janvier 2028, c'est terminé pour les F. Donc effectivement, cette décote s'accroît.
Ouais, et puis, la plupart du temps, ce qu'on a constaté, c'est que les propriétaires de ces biens qui, la plupart du temps, sont des personnes âgées, n'ont pas envie, n'ont pas les moyens de faire les travaux, donc ils vendent. Et donc on a vu un afflux, et c'est peut-être ça qui fait que beaucoup disent qu'en fait la baisse des prix à Paris, non seulement elle est modérée, mais elle est peut-être faussée, parce que si vous enlevez toutes ces passoires thermiques, eh ben, mine de rien...
Il ne reste plus grand-chose.
Et voilà.
Et alors à l'étranger, comment ça se passe, Geoffroy?
Alors, déjà, rien à voir. Quand on regarde le panorama européen... La France, on pourrait l'appeler la dictature verte.
Oh là là !
Ce qui est positif aux égards des objectifs de l'Europe pour 2050. Ouais. L'Europe doit rénover 40 millions de logements, 40 millions de bâtiments, donc encore plus que ça.
Ouais,
40 millions de bâtiments d'ici 2050. Donc les objectifs sont énormes. Et ça touche pas que la France, c'est tous les pays européens, c'est vraiment l'Europe qui doit faire ça.
Mm-mm.
Maintenant, la France, c'est 17% de passoires énergétiques, et c'était 19% il y a un an. Mm. Donc, on est sur un taux qui nous semble élevé. Et par contre, sur les mandats de vente, je crois que c'est 30 ou 35%, en tout cas, selon les
étudiants. Donc,
il y a une proportionnalité doublée. En revanche, à l'étranger, alors j'aime bien parler de l'Espagne, mais je n'ai pas trouvé le chiffre sur la Grèce et l'Italie, j'aurais bien aimé. Le pourcentage de passoires énergétiques en France est de 17%, en Espagne est de 85%.
Non.
Mais attends, d'un point de vue architecture, parce que je veux dire, le concept de passoire ou de bouilloire thermique, il est très lié quand même au dérèglement climatique. L'Espagne, c'est un pays où il fait très chaud au sud. Depuis des millénaires, j'imagine qu'on sait construire sur ces territoires des maisons résistantes à la chaleur. Alors, c'est quoi la définition d'une passoire thermique en
Espagne? Rejoins Lorraine, le thermomètre n'est peut-être pas le même non plus.
Alors, le thermomètre n'est pas le même, c'est un super point. On l'a vu en France, il y avait le débat sur plusieurs experts en la matière qui donnaient des lettres différentes. En Europe, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, les champions d'Europe, pas de surprise, c'est la Suède, la Finlande, la Norvège.
Et bien sûr.
Jusque-là, on s'y attendait.
Oui.
Bon. Le sud de l'Europe, c'est évidemment les cancres, parce qu'on a moins besoin, etc. Cela dit, le calendrier arrive. Sauf que ce que ces pays font n'est pas la même chose qu'en France. Je donne un seul exemple. L'Italie, on va arrêter de parler de l'Espagne. L'Italie, ils ont créé le super bonus 110%, où en fait, ils ont mis un crédit d'impôt sur les 5 prochaines années pour quelqu'un qui investit dans la rénovation énergétique de son logement. Donc en gros, tout ce qu'on dépense dans sa rénovation énergétique, on le récupère en crédit d'impôt sur les 5 années à venir.
Pas mal.
Sauf que, petit problème, leur déficit budgétaire a explosé l'an dernier. en cause notamment ce dispositif qui leur coûte beaucoup trop cher. Donc on voit qu'il y a une opposition forte entre l'ambition politique et
mais
la réalité.
Mais c'est pareil
économique.
En France, Guillaume,
ouais,
non
ouais, ouais, hein c'est vrai. Bah, et pour le coup, clairement, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et une difficulté du gouvernement à répondre à la fois à l'enjeu politique et à la difficulté du marché locatif que ce calendrier pose un problème. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment avec les 140 000 logements qui sont sortis.
Les petits logements.
Voilà, exactement. Les tout petits logements chauffés à l'électrique, etc., etc. On voit clairement que le gouvernement essaye, encore une fois, de
grappiller
les deux.
Mais c'est ça qui est assez dingue. C'est qu'en même temps, nous, on a tellement complexifié l'obtention des aides et la compréhension de tout le système que finalement, plus personne ne rénove. Comme ça, ça ne coûte plus rien. Merci exactement. Pour les finances publiques. Voilà, quoi. Donc, mais on n'avance pas. C'est ça l'idée. Hein.
Mais sur les mesures énergétique, ce qui est intéressant, c'est que les approches en Europe, on pourrait dire que l'Europe est cacophonique par rapport à l'approche de la rénovation énergétique, parce que si je prends l'Espagne quand même, que je connais assez bien sur ce secteur-là, eux, ils sont en train de mettre vraiment l'accélérateur, mais sur la rénovation des bâtiments. Pas individuellement.
Non,
pas par l'intérieur, mais par l'extérieur. Et moi, j'ai parlé récemment à des grandes banques comme CaixaBank et BBVA, qui sont deux des plus grandes banques espagnoles,
ouais.
qui n'ont toujours pas, et ça, pour nous Français, ça nous paraît improbable, ils n'ont toujours pas de solution claire et nette pour un individuel, un particulier qui veut rénover son logement. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de crédit travaux.
Il n'y a pas des coprés
En général, ils font des crédits conso.
Ouais, bah, super.
D'accord. Ah oui, bah, ça, c'est justement ce qu'on
essaye. Mais il faut voir le taux du crédit conso. Ce n'est pas forcément un mauvais crédit parce qu'il est conso. Alors, c'est pareil, c'est très culturel de juger le crédit conso comme quelque chose de très mauvais. C'est très français.
Totalement d'accord. Sauf que en France, pour l'avoir fait l'an dernier, j'avais acheté un logement à Marseille où j'ai fait 50 000 euros de travaux. Bah, d'avoir le crédit sur 20 ans de la totalité, c'est extrêmement agréable pour la mensualité de crédit et pour un investissement locatif. À l'inverse, quand on achète en Espagne et qu'on se retrouve avec un crédit conso qui, du coup, est sur maximum 5 ou 7 ans, c'est pas du tout le même impact sur la mensualité, donc pas du tout le même sur le flux de trésorerie mensuel. Donc, quand on fait un investissement locatif, on regarde la rentabilité, certes, mais on regarde aussi le cash flow. Donc, ça a un impact pour l'investissement.
On en revient à ce que vous disiez, Guillaume, du cas par cas. Pour conclure cette séquence, j'aimerais que vous reveniez juste très rapidement sur où les expatriés achètent. On a souvent l'impression, et on en parle beaucoup quand on couvre l'actualité des Jeux Olympiques et de l'impact sur l'immobilier parisien en tout cas, l'impression que les étrangers pullulent à Paris, que tout le monde achète à Paris, qu'il y a un effet Emily in Paris, etc. Est-ce que c'est vrai ?
C'est très très faux. En fait,
et voilà.
De toute façon, les chiffres sont là pour le prouver aussi. On voit que c'est un micro-marché. Hein. Mais comme ils ont un budget plus élevé que la France... Bon.
Alors, après, juste par rapport à ça, je dis que c'est faux. Pour clarifier, je vais donner les chiffres. En fait, en France, les acheteurs étrangers non résidents, c'est 1,8% du marché. En Espagne et au Portugal, parce que c'est les champions d'Europe sur le sujet, c'est entre 15 et 20%. Donc, on n'est pas du tout sur la même planète.
Ouais.
En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que il y a des micro-marchés, typiquement à Paris, quand on regarde les études de Daniel Féo, Barnes, Juno, etc. Eux, sur le marché au-delà de 3 millions, sur les hautes richesses, etc., là, on retrouve des taux d'acheteurs étrangers supérieurs à 20%, à 30%. Mmh. C'est une réalité. Mmh. Mais sur le marché global français, ce n'est pas le cas. Et même sur le marché parisien, juste pour parler de Paris, on n'est peut-être pas sur la moyenne nationale à 2%.
Ouais.
On est peut-être à 5 ou à 6, mais c'est de ça dont
on parle. Ça reste pitchoun,
Ça ne fait pas le marché.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marie d'avoir réuni ce tour de table, Marie-Cœur de Roy et Limo. Merci Geoffroy Reiser de l'équipe Terreta Spain, expert du marché espagnol et européen. Et merci à vous notre confrère Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro.